Então.
Merci. Bonjour. Oui, effectivement, nous avons beaucoup à dire et nous sommes surtout, nous en Algérie, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs au monde, très sensibles à cette notion d'amnistie ou l'organisation d'une quelconque amnistie. Et puisque nous venons de vivre encore en Algérie une nouvelle amnistie qui n'est pas la première et qui vraiment là nous a vraiment, pour parler simplement, coupé l'herbe sous les pieds. Puisque cette nouvelle loi d'amnistie appelée la Charte pour la paix et la réconciliation nationale nous enlève, nous empêche, nous interdit même tout recours à la justice et j'y reviendrai tout à l'heure. Et nous interdit même de parler de ce que nous avons subi. Mais ce qui me. Donc, tout le monde est d'accord depuis ce matin que amnistie est égale amnésie, mais moi, pour me réconforter, c'est. Quand on parle d'amnistie qui est liée à l'amnésie, ce qui me réconforte, c'est que si on crée des amnesties, donc c'est pour que ce soit suivi d'une amnésie, je confonds les mots, et si on veut devenir amnésique, c'est parce qu'on veut surtout oublier quelque chose qui n'est pas beau. Si les États organisent des amnisties, c'est vraiment pour tourner une page qui n'a pas été belle et qui veulent eux-mêmes oublier ce qui n'a pas été beau et ce qu'ils ont fait qui n'est pas du tout beau. Parce que les bons souvenirs, on essaie toujours de les garder en mémoire, mais les mauvais souvenirs, on les efface. Et les victimes, elles, n'oublient jamais ce qui leur est arrivé. Une mère de disparue n'oubliera jamais son fils. Ou une mère dont le fils a été tué, elle n'oubliera jamais son fils et de la façon dont il a été tué. Moi, mon fils a été arrêté le 30 janvier 1997 et je n'ai plus de ses nouvelles à ce jour. Et je ne peux pas oublier mon fils. Et puis les années passent et puis je le rends de plus en plus beau. Mon fils était comme toutes les mères, mon fils était le plus beau du monde. Et c'est beau, donc c'est quelque chose de beau, on ne peut pas l'oublier. On oublie ce qui est moche. Et les États essaient de tourner des pages moches. Et ce qui me réconforte, c'est que si. Et ce qui me réconforte, c'est que je suis comme Federico un peu, je suis très optimiste. Et dire que tant que nous serons là, nous pourrons, ces États-là ou ces auteurs de crimes ne pourront pas oublier les crimes qu'ils ont commis. Donc un jour ou l'autre, ils finiront par céder. Ils finiront peut-être par nous dire la vérité. Moi, je suis très optimiste. Cette vérité, nous luttons pour, nous combattons pour, sans relâche, et nous obtiendrons cette vérité. Donc, en Algérie, il y a eu, on estime aujourd'hui le nombre de disparus à plus de 10 000. Nous, pour notre part, au collectif de familles de disparus en Algérie, nous avons plus de 8 000. 8 000 dossiers de personnes qui ont été arrêtées par les forces de sécurité et qui n'ont pas apparu à ce jour. Comment est arrivée cette tragédie? C'est arrivé dans un contexte très complexe. L'arrêt du processus électoral en 1992, à la veille de la victoire du Front islamique du salut, suite aux premières élections législatives pluralistes depuis l'indépendance, le déclenchement d'une insurrection islamiste à l'origine d'une vague de violences terroristes sans précédent, la proclamation de l'état d'urgence, la promulgation des décrets antiterroristes qui conféraient tout pouvoir et qui continuent à conférer tout pouvoir aux agents de l'État. Donc ces pleins pouvoirs conférés aux agents de l'État, qu'ils soient militaires, policiers ou gendarmes, conjugués à l'organisation anarchique des groupes d'autodéfense, ont permis ces crimes. Voilà qu'en 1999, enfin plutôt en 1988, le président de l'époque démissionne et on lance une campagne présidentielle et le président actuel est élu en 1999, le président Abdelaziz Bouteflika. Mais pendant toute sa campagne présidentielle, il n'a pas cessé de parler de tourner la page, le passé est mort, il faut reconstruire l'Algérie et que le problème des disparus ne peut être résolu. Il insinuait que le problème des disparus ne pouvait être résolu dans l'immédiat. Donc les mères de disparus ont fait tout ce qu'elles ont pu pour être présentes dans tous les meetings, dans tous les meetings qui ont eu lieu en Algérie pendant cette campagne présidentielle. Et voilà que la veille des élections, le président, pardon, non, je confonds les dates. Non, voilà qu'après les élections, une fois qu'il a été élu, le président Abdelaziz Bouteflika se proclame favorable à ce qu'il a appelé la concorde civile. Donc il lance une campagne pour cette campagne civile, pour cette concorde civile, et nous, les maires de disparus, c'est là que nous avons essayé d'être présentes pendant tous les meetings qui ont eu lieu en Algérie pour faire entendre notre voix et pour dire que il y a déjà eu une amnistie en 1995 pour pardonner à des criminels, à des terroristes. On organise encore une autre amnistie. Et les disparus, alors, quand est-ce qu'on va penser à eux? On n'est pas d'accord que c'est pas le moment et ce sera quand le moment. Et la veille du référendum, de 15 septembre 1999 exactement, le dernier meeting que le président Bouteflika a organisé à Alger, les maires de disparus ont réussi enfin à pénétrer la salle où a été organisé ce meeting. Et elles ont tellement chahuté que le président lui-même a fini par accorder la parole à une maire de disparus. Donc la mère de disparu monte sur le podium et elle essaye de lui expliquer qu'on ne demandait pas vengeance, on voulait le retour de nos enfants. Parce qu'à l'époque encore, c'était vous avez pris nos enfants vivants, rendez-nous nos enfants vivants. Et le président de la République lui répond méchamment, en colère, en montrant ses poches, les mains dans les poches, les disparus sont pas dans mes poches, les disparus ne sont pas dans mes poches, je ne peux rien faire pour vous, vous devez tourner la page, tous les disparus sont morts, je ne peux rien pour vous, et il nous traite d'indignes, et il dit, vous me faites honte dans le monde, et répète, vous me faites honte dans le monde avec vos photos comme des pleureuses. Donc les mères de disparus quittent la salle, en plein désespoir. Ce qu'elles ont retenu surtout des propos du président, c'est que tout le monde est mort. Et pour elles, c'était la fin, je ne sais pas si c'était la fin ou le début d'un cauchemar, mais tout ce qu'elles ont retenu en tout cas, c'est que tout le monde est mort. Mais je leur ai dit, vous n'avez pas entendu qu'il nous a dit qu'on lui faisait honte dans le monde comme des pleureuses. Et si on lui fait honte dans le monde comme des pleureuses, c'est parce que le monde nous a vus. Et personne ne nous a donné, on s'est imposé dans le monde, on s'est imposé en Algérie, les mères de disparus sont connues dans le monde et elles font honte au président de la République, et bien nous continuerons à lui faire honte tant qu'il ne nous aura pas rendu nos enfants vivants. Si nous n'avons pas honte d'être dans la rue, de crier haut et fort rendez-nous nos enfants, nous n'avons commis aucun crime, nous n'avons pas honte, nous continuerons à protester et à clamer haut et fort, vous avez pris nos enfants, rendez-nous nos enfants. Donc cette loi, le lendemain, c'est le référendum. La concorde civile est adoptée, bien sûr, à la majorité. Et cette concorde civile qui, juridiquement même, ne devait pas accorder d'amnistie à des crimes, à des personnes qui avaient les mains tachées de sang, pardonne quand même à des personnes tristement célèbres qui avaient créé des maquis terroristes en Algérie. Nous avons continué notre combat et nous avons essayé de nous faire entendre. Nous avons demandé rendez-vous au président de la République. Il ne nous a jamais reçus. Il n'a jamais daigné nous répondre. Et en 2003, Il, dans un discours à la Nation, il déclare qu'il allait mettre en place une commission ad hoc, et dans son discours, il déclare que cette commission ad hoc ne sera nullement une commission d'enquête, ce sera juste une interface entre les pouvoirs publics et les familles de disparus. Donc cette commission a pour mandat 18 mois, mais ce que nous avons gagné, c'est qu'au terme de son mandat, le président du mécanisme ad hoc déclare à la presse que effectivement il y a eu 6146 personnes disparues du fait des agents de l'État. Mais les agents de l'État ont agi individuellement et ce sont des agents qui ont désobéi à leur chef et pourquoi pas ils se déclarent aussi favorables à une amnistie générale. Et tout de suite après, c'est le président de la République qui, dans un autre discours à la nation, se déclare aussi favorable à une amnistie, et une campagne est lancée encore pour une amnistie générale en Algérie. Mais ce que nous avons gagné aussi, c'est une reconnaissance quand même, 6146 personnes qui ont été enlevées du fait des agents de l'État. Mais le deuxième point que nous avons gagné, c'est que pendant tout notre combat entre les victimes et du terrorisme, et c'était pas la guerre, disons, mais on se regardait comme chien et chat, les victimes du terrorisme et les victimes de disparition forcée. La première amnistie de 1999, Concorde civile, a commencé à faire réfléchir certaines personnes, certaines personnalités et certaines associations de victimes du terrorisme. Parce que, du moment que, et c'était dans tous les esprits, et ça l'est encore aujourd'hui, du même moment que la personne a été arrêtée et qu'elle a disparu, c'est qu'elle a fait quelque chose et qu'elle avait un quelconque lien avec les groupes armés ou les terroristes, et donc s'il a disparu, c'est normal. C'est ancré dans la tête des gens, c'est normal. Et à l'époque, les journaux, en 98, les journaux titraient « Les familles des égorgés ». Quand on a commencé nos rassemblements en Algérie, qui durent jusqu'à aujourd'hui, tous les mercredis matins, les journaux titraient « Les familles des égorgeurs manifestent dans la rue ». Et certaines associations de victimes du terrorisme étaient venues sur notre lieu de rassemblement pour essayer de nous mener une guerre, parce que nous avions réussi à arracher cette place. Elle disait qu'elle aussi, elle devait arracher cette place. Et petit à petit, après la première amnistie de 99, il y a eu un rapprochement. Mais le rapprochement était très timide. Là où le rapprochement a commencé à être très, très fort, c'est en 2005, quand le président de la République déclare l'organisation d'un référendum pour la charte pour la paix et la réconciliation. Et là, nous avons commencé à... Nous nous retrouvions assez souvent dans des conférences internationales, mais on ne se disait même pas bonjour. Et puis là, on s'est retrouvés une fois dans une conférence, et j'ai entendu parler les victimes du terrorisme, et je me suis dit, mais pourquoi pendant des années on se regardait comme des ennemis? Eux, ils parlent de vouloir la vérité, ils sont contre une amnistie, nous voulons la vérité, nous sommes contre cette amnistie, et pourquoi cet abîme profond entre nous? Et donc nous nous sommes parlé et nous avons commencé à essayer d'organiser ensemble des choses. Et le premier événement que nous avons organisé ensemble est une conférence de presse suite à la publication des textes portant mise en œuvre de la charte pour la paix et la réconciliation. Pourquoi ? Parce que cette charte pour la paix et la réconciliation, encore une fois, parler d'extinction, comme la Concorde civile, parler d'extinction des poursuites, extinction des poursuites, extinction des poursuites pour les gens qui se rendaient dans le cadre de cette amnistie, les personnes qui avaient pris les armes et qui se rendaient. Et le deuxième point, c'est que de l'ordonnance de ces textes, dans l'article 45, dit que nous n'avons plus le droit de déposer des plaintes, nous n'avons plus aucun recours à la justice, nous n'avons plus le droit de déposer plainte auprès des tribunaux contre des agents de l'État qu'ils appellent ceux qui ont sauvegardé la nation. Donc, qu'ils soient tout corps confondus, ils insistent bien sur tout corps confondus, que ce soit les agents de police, les militaires ou les gardes communaux ou les simples miliciens, les civils qui avaient pris les armes. Et l'article 46 de cette ordonnance dit que quiconque ternit l'image de son pays, que ce soit au niveau national ou international, par un écrit ou une déclaration, est passible de 3 à 5 ans de prison et d'une amende de 550 000 dinars à 500 000 dinars et du double s'il récidive. Et le ministère public peut poursuivre la personne. Mais pour nous, bon... on gagne un pas, on recule de deux pas, on gagne un pas, on recule de deux pas, mais je pense que c'est quand même un grand point que nous avons gagné, le fait d'avoir pu s'organiser avec les victimes du terrorisme. On me fait signe que je dois arrêter. Donc, pendant tout ce temps-là, j'avais entendu parler, pour venir à la justice transitionnelle, j'avais été invitée dans différents séminaires, on parlait de justice transitionnelle, Mais je vous avoue franchement que moi, juge transitionnel, c'était pour moi, ça veut rien dire. Qu'est-ce que veut dire la juge transitionnelle? Il y a une justice, il n'y a pas de justice, pour moi, il n'y a qu'une seule justice. Mais en voyant que les autorités algériennes, avec l'organisation de cette dernière amnistie, voyant que les autorités algériennes étaient vraiment bloquées là-dessus et qui ne voulaient pas faire cette vérité, qui voulaient absolument tourner cette page, donc ça m'a donné à réfléchir. Et un jour, j'arrive en Algérie et je trouve les mères qui m'attendaient au bureau et elles étaient là et pleuraient en me disant nous sommes fatigués, nous voulons la vérité, on ne demande pas l'impossible. S'ils sont morts, ils nous donnent ce qui reste. Ils n'ont quand même pas mangé les os qui restent. S'ils sont vivants, qu'ils nous relâchent ceux qui sont vivants. S'ils sont morts, qu'ils nous rendent les os, au moins un petit bout de ce qui leur reste. Et ça m'a donné à réfléchir et je me suis dit, est-ce que j'ai le droit de continuer à combattre pour la vérité et la justice? Est-ce que dans un premier temps, est-ce qu'il ne serait pas nécessaire plutôt d'essayer de combattre pour la vérité et laisser de côté pour l'instant la justice qui nous donne cette vérité, que nous puissions nous reposer simplement, tout simplement. Ne pas être toujours là à se demander ce qui s'est passé, pourquoi, et pourquoi je n'ai pas eu le droit de savoir, et pourquoi ils ont pris mon fils, et pourquoi, et qu'est-ce qu'ils en ont fait, est-ce qu'il est toujours vivant, est-ce qu'il est mort. Ne plus se poser de questions, avoir la vérité. Parce qu'une partie de la vérité, pour beaucoup de dossiers, nous la connaissons, pour beaucoup de familles, connaissent cette vérité. Ils savent qui a pris leur fils, dans les dossiers, les auteurs de l'enlèvement sont nommés, que ce soit policiers ou gendarmes, pas les militaires, parce que les militaires, ils arrivent toujours en force, mais les auteurs sont souvent nommés. Souvent, les familles ont pu visiter leurs proches, leurs fils dans une gendarmerie ou un commissariat. Et puis après, elles perdent leurs traces. Cette partie de la vérité, nous la connaissons. Ce que nous voulons, c'est l'autre partie de la vérité. Pourquoi? Ce sont toutes ces questions que les mamans se posent tous les jours et dont elles veulent avoir des réponses. Et ces réponses, on refuse de nous les donner. Et donc, en 2006, en 2007, nous, avec les associations de victimes du terrorisme, nous avons essayé d'organiser un séminaire que nous avons intitulé pour mettre tout le monde d'accord autour de ce thème, un séminaire pour la vérité, la paix et la conciliation. Et malheureusement, les autorités nous ont interdit de séminaire. Nous n'avons pas pu le tenir en Algérie. Nous l'avons tenu à Bruxelles avec l'aide de la FIDH. Nous avons pu ouvrir un petit débat, mais malheureusement, ce n'était pas le débat que nous voulions ouvrir en Algérie avec un grand nombre de la société civile pour essayer d'apporter des solutions. Et c'était plutôt une main tendue vers les autorités pour dire que nous sommes ouverts au dialogue, nous voulons nous asseoir à une table et parler et trouver une solution qui puisse convenir à tout le monde. Mais même cela, pour l'instant, on nous l'a refusé, mais nous continuons quand même à essayer d'avoir cette vérité. Merci.
Merci. Bon, c'est un peu difficile pour moi d'interrompre un témoignage qui est un témoignage très fort et, très, et aussi personnel. Et je donne la parole à Carlos Jiménez Villarejo pour 15 minutes tout juste, parce qu'après, au-delà, nous allons avoir un petit problème de traduction. Voilà. Donc, je suis un peu injuste entre les derniers intervenants, mais c'est ainsi.
Buenos días. Gracias a Alain Lipié. Gracias a los organizadores de este encuentro sobre la justicia transicional. Y yo quería empezar mis palabras haciendo una puntualización.